bonne journée sur RCJ.
Bonjour, bon réveil, soyez les bienvenus sur RCJ. Nous sommes le vendredi 27 mai 2022 et il est 8h.
La matinale info, Rudy Saada.
Une célébration sous haute tension ce dimanche marquera en Israël le Yom Yerushalayim en souvenir de la réunification de la capitale. Des festivités très politiques et sous haute tension, Emmanuel Ada.
Oui, bonjour Rudy, bonjour à tous les auditeurs. Effectivement, une marche des drapeaux pour Yom Yerushalayim qui seront avec danse et chant et qui devraient se dérouler dans la joie, mais aussi avec des menaces qui fusent de toutes parts, de l'Iran jusqu'à Gaza.
Et on en parlera également dans notre dossier à 8h15 avec le colonel de réserve de l'armée israélienne, Olivier Rafovitch. Et puis en fin de demi-heure, vous retrouverez comme chaque vendredi Lise Barenboim pour sa chronique série.
Aujourd'hui, on parle de la série The Dropout qui raconte la plus grande escroquerie de la Silicon Valley.
Voilà pour le programme de cette demi-heure d'infos que l'on démarre par l'essentiel de l'actualité de ce vendredi.
Le journal sur RCJ.
L'offensive russe s'intensifie ces dernières heures dans l'est de l'Ukraine. Hier, des bombardements sur Kharkiv ont fait au moins 9 morts et 20 blessés. Volodymyr Zelensky accuse Moscou de génocide. Selon lui, les forces russes cherchent à réduire en cendres plusieurs villes de la région. Je vous propose d'écouter Gana Maïlar, la vice-ministre ukrainienne de la Défense.
L'agresseur russe conduit aujourd'hui des tirs de haute intensité le long de la ligne de contact dans la région opérationnelle de Donetsk. Il utilise des systèmes de roquettes tactiques, de l'aviation et de l'artillerie. Les combats ont atteint leur intensité maximale. Nous entrons dans une étape longue et extrêmement difficile du conflit.
De son côté, Vladimir Poutine s'est dit prêt hier à, je cite, « surmonter la crise alimentaire contre la levée des sanctions ». Il a expliqué au Premier ministre italien qu'il pourrait notamment exporter des engrais et des céréales. La responsabilité de la police pointée du doigt dans le massacre d'Uvalde qui a fait au moins 21 morts, dont 19 enfants âgés de 8 à 10 ans. Selon de nombreux témoignages et une vidéo, des parents ont attendu devant l'école près d'une heure sans que la police n'intervienne alors que leurs enfants étaient en train d'être massacrés dans une salle de classe. Joe Biden et son épouse Jill se rendront dimanche sur place pour, je cite, partager le deuil de la communauté. Le président américain dit vouloir affronter le lobby des armes alors que s'ouvre ce vendredi au Texas, hasard du calendrier, avec comme invité d'honneur la convention de la NRA. Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, parle de mensonges éhontés. Toute affirmation selon laquelle l'armée israélienne visait intentionnellement des journalistes et des civils non impliqués. C'est une déclaration qui fait suite à une enquête de la chaîne CNN et à la révélation du rapport du procureur en chef de l'autorité palestinienne, Akram Al-Khatib. Selon ce rapport, Shirin Abu Akleh a été la cible d'une balle tirée par un Rejet M40, un fusil de précision américain. Notez que l'autorité palestinienne n'a pas voulu rendre publique la balle qui a tué la journaliste a refusé de coopérer avec Israël dans le cadre d'une enquête pour faire la lumière sur les circonstances de ce drame. Les députés irakiens ont adopté hier un projet de loi qui criminalise la normalisation des liens ou toute relation avec Israël, y compris des relations commerciales. La législation stipule que la violation de la loi est passible de la peine de mort ou d'emprisonnement à vie. Des centaines de personnes ont célébré l'adoption de cette loi en scandant des slogans anti-israéliens à Bagdad. Dans les colonnes du Parisien, Nicolas Neikoff, le directeur général de Ferrero France, tente de jouer la transparence et fait son mea culpa après la contamination à la salmonelle de certains de ses chocolats Ferrero. Il a admis des défaillances devant des consommateurs et il a affirmé « Je suis venu vous dire que ce qui s'est passé n'est pas acceptable. On est désolé, je suis désolé. » Il a promis une réparation financière aux parents d'enfants hospitalisés. En tout, 3000 tonnes de produits Kinder ont été retirées du marché. Elisabeth Borne réunit le gouvernement à Matignon ce matin. Rendez-vous pour définir la feuille de route des différents ministres et partager la méthode du gouvernement. La première ministre entend avancer sur les priorités fixées par le président Emmanuel Macron au cours du premier conseil des ministres ce lundi. Et puis deux disparitions dans le monde de la culture. Tout d'abord celle de l'acteur américain Ray Liotta, qu'on a notamment pu voir dans Les Affranchis de Martin Scorsese. Il est décédé à l'âge de 67 ans alors qu'il tournait un film en République Dominicaine. Et puis on a également appris la mort à l'âge de 60 ans d'Andy Fletcher. C'est le membre fondateur du groupe de rock alternatif britannique Depeche Mode, né en juillet 61 à Nottingham. Il était l'un des clavéristes du groupe, connu donc pour ses tubes comme Just Can't Get Enough. Et puis pour terminer, un mot de football. Hier, c'était les matchs allés à des barrages pour une place en Ligue 1 la saison prochaine. Auxerre et Saint-Etienne se sont séparés sur un match nul, un but partout au stade de la Baie-des-Champs. Tout se jouera donc au match retour à Saint-Etienne. Vous écoutez la matinale info RCJ, il est 8h05. Dans un instant, nous irons en Israël à l'avant-veille d'un Yom Yerushalayim sous haute tension.
Un message de la Fondation FSJU.
Vous devez vous acquitter de l'impôt sur la fortune immobilière ? Sachez que vous pouvez en faire un geste utile et fort. Avec la Fondation FSJU, sous l'égide de la Fondation du judaïsme français, votre IFI va permettre de lutter contre la précarité, assurer l'avenir des enfants en difficulté et agir face à l'urgence humanitaire en Israël. Parce que votre cœur a toujours raison. Donnez maintenant sur ifi.fsju.org. ifi.fsju.org.
Pour plus d'informations, contactez Julie Guez au 01 42 17 11 16. 01 42 17 11 16.
En France, une personne sur 10 souffre de malaudition. Pourtant, des solutions existent. Si vous faites parfois répéter, si vous avez le sentiment d'entendre mais de ne pas comprendre, si vous augmentez le son de votre téléviseur ou votre radio, si vous êtes gêné en groupe, au restaurant ou dans un environnement bruyant, il est temps de faire contrôler votre audition gratuitement. Contactez votre expert Benjamin Saragosti au 01 43 48 24 78, 01 43 48 24 78, ou vous venez nous retrouver dans votre centre audition conseil au 60 rue Lecourbe, à Paris.
Jacques Fredge, directeur du Mémorial de la Shoah.
L'ignorance est le terreau de l'intolérance. Encourager l'éducation est la meilleure réponse pour la combattre. Chaque année, le Mémorial de la Shoah accueille plus de 80 000 scolaires à Paris et à Drancy afin de leur enseigner les conséquences du racisme et de l'antisémitisme dans l'histoire. Aidez-nous à faire plus. Engagez-vous avec le Mémorial contre l'antisémitisme et contre l'oubli de la Shoah. Faites un don. Merci.
75% de votre don est déductible de votre IFI. Pour plus d'informations, rendez-vous sur memorialdelashoah.org.
Faites-vous connaître, faites-vous entendre. Ouvrez une vraie visibilité à votre entreprise, votre association, votre projet. RCJ est là pour trouver avec vous la solution clé en main. Spot radio, campagne publicitaire, publi-reportage, sponsoring d'émissions, nous serons à vos côtés pour élaborer ensemble la meilleure des stratégies pour vous faire connaître. Appelez notre régie publicitaire au 06 03 47 98 36.
Vous écoutez la matinale info RCJ, il est 8h07 et on prend maintenant la direction d'Israël pour y retrouver Emmanuel Ada. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Rudy.
Alors le Yom Yerushalayim, la journée de Jérusalem, ça sera dimanche et la ville est en état d'alerte maximale.
Absolument, le Hamas menace déjà Israël ainsi que le Hezbollah, mais aussi l'Iran pour une marche populaire avec des drapeaux bleus et blancs frappés avec l'étoile de David qui vont aller en direction du lieu le plus saint du peuple juif, le Kotel. L'itinéraire de la marche du drapeau est très controversé. Ses opposants voient le passage par le quartier musulman de la vieille ville comme une provocation et ses partisans considèrent qu'elle témoigne de la souveraineté d'Israël sur Jérusalem. Pour éviter une affluence trop importante, comme par exemple au Kotel, 8000 manifestants seront autorisés à entrer par la porte de Damas et 8000 autres par la porte de Jaffa. Ceux qui ne pourront pas accéder à la vieille ville pourront prendre part à une danse collective à proximité de la porte de Jaffa. Ces aménagements ont été décidés en coordination avec la mairie et la police. Mais les villages à la frontière de Gaza, eux, ont été prévenus que des tirs de roquettes provenant de Gaza seraient possibles, comme cela s'était passé l'année dernière. Des abris mobiles supplémentaires ont été installés dans la ville de Sderot. Mais pour terminer sur une note positive, car Yom Yerushalayim est un jour de joie et de liesse pour tout le peuple juif, écoutons encore et encore la célèbre chanson « Yerushalayim Shel Zahav » de Noémie Shemer, chanson écrite avant la guerre des six jours et qui a été chantée par nos parachutistes lorsqu'ils ont délivré le Kotel en 1967.
On parle maintenant de cette fuite du journal New York Times qui concerne l'implication d'Israël dans la mort d'un colonel iranien. Le fait que cette information ait été rendue publique, dérange terriblement les services secrets israéliens.
Oui, les autorités israéliennes sont très contrariées depuis cette fuite. La commission des affaires étrangères de la défense de la Knesset a signalé que de telles fuites pourraient nuire à la coopération américano-israélienne. Ben Barak, l'ex-adjoint au chef du Mossad, a nié l'information selon laquelle les responsables israéliens auraient confié à leurs homologues américains être responsables du meurtre du colonel iranien. Pour autant que je sache, nous n'avons informé personne, a-t-il déclaré. Mais il faut savoir que les gardiens de la révolution islamique projetaient de perpétrer des attentats contre des cibles juives et israéliennes dans le monde. Et parmi ces cibles se trouvait le philosophe juif français Bernard-Henri Lévy, dont la photo a été publiée en première page de la presse israélienne hier. Les responsables israéliens estiment que la fuite expose désormais Israël comme seul responsable de cette élimination et exonère les Américains de toute application. Israël pourrait étendre ses avertissements de voyage par crainte d'une vengeance contre des cibles israéliennes vers les Émirats arabes unis, Bahreïn et l'Azerbaïdjan.
Et puis on reparle de cette affaire d'étudiants palestiniens qui se sont retrouvés donc sur le campus de l'université Ben Gurion. Le président de cette université pourrait éventuellement démissionner après ce rassemblement d'étudiants palestiniens.
Oui, nous en avions parlé en début de semaine, Rudy. Ces étudiants avaient organisé, avec l'accord du président de l'université, un rassemblement pro-palestinien sur le campus à Beersheba, rassemblement pendant lequel des drapeaux palestiniens ont été brandis et des chants nationalistes entonnés, ce qui a provoqué la colère des étudiants juifs, ainsi que celle du maire de la ville et de ses habitants, qui ont appelé à la démission immédiate du président de l'université. Le ministre des Finances, Avigdor Lieberman, extrêmement contrarié et en réaction, a déclaré envisager réduire le budget de cette université pour avoir autorisé cet événement pro-palestinien. Le ministre des Finances a déclaré avoir donné des instructions pour enquêter sur la conduite de l'université afin d'envisager une réduction de son budget annuel. Le président de l'université a reçu depuis des menaces de mort et aujourd'hui sous protection. Pour rappel, l'université Ben Gurion du Negev accueille grand nombre d'étudiants arabes et bédouins.
Merci Emmanuel Ada et très bon week-end à vous. Vous écoutez la matinale info RCJ, il est très exactement 8h12. Dans un instant, nous allons revenir sur cette journée de Jérusalem qu'on évoquait à l'instant, donc célébrée ce dimanche, ses origines et puis les raisons des tensions cette année autour de l'événement. On en parle dans un instant avec notre invité Olivier Rafovitch, colonel de réserve de l'armée israélienne.
Un message de la Fondation FSJU.
Vous devez vous acquitter de l'impôt sur la fortune immobilière ? Sachez que vous pouvez en faire un geste utile et fort. Avec la Fondation FSJU, sous l'égide de la Fondation du judaïsme français, votre IFI va permettre de lutter contre la précarité, assurer l'avenir des enfants en difficulté et agir face à l'urgence humanitaire en Israël. Parce que votre cœur a toujours raison. Donnez maintenant sur ifi.fsju.org. ifi.fsju.org.
Pour plus d'informations, contactez Julie Guez au 01 42 17 11 16. 01 42 17 11 16.
Vous faites votre alia ?
Depuis 30 ans, Sonigo Déménagement Groupe Fidi s'occupe de tout.
Expédition en groupage maritime et conteneurs personnalisés. Assurance tout risque. Véhicules. Solutions de stockage pour courte et longue durée en nos dépôts ultra sécurisés.
Sonigo Déménagement, agent en douane certifié Fidi et reconnu par les autorités, facilitera toutes vos démarches. Sonigo Déménagement Groupe Fidi
au 01 76 54 92. 92
01 76 54 92 92 ou sur le www.sonigo.eu.
Message à destination des experts comptables.
Depuis 100 ans, l'ORT est mobilisé pour la formation permettant à des dizaines de milliers de nos jeunes une belle réussite professionnelle. Jusqu'au 1er mars, les experts comptables amis de l'ORT doivent continuer, surtout en cette période de crise, plus que jamais, à choisir l'ORT comme seul bénéficiaire de la taxe d'apprentissage. Renseignements et formulaires sur ta75@ortfrance.fr
et 01 44 17 30 83.
Votre don IFI au profit du Magen David Adom, c'est l'assurance de transformer votre générosité en un geste bienfaiteur, bénéfique et protecteur pour l'ensemble de la population d'Israël. Notre quotidien est de sauver des vies. Nos secouristes ont besoin de votre don. Donateurs, vous êtes les premiers maillons de la chaîne de la vie. Être accompagné dans votre démarche, appelez le 01 43 87 49 02.
mda-france.org.
MDA France, association au service de la vie.
Mardi 14 juin, salle Gaveau à Paris, Hadassah France organise un concert de gala. Invité d'honneur, son excellence Madame Yael German, ambassadrice d'Israël en France. Au programme, la violoncelliste virtuose Sarah Nemtanou, l'orchestre et le chœur PSL, dirigé par Johan Farjo, la chanteuse de jazz Isabelle Georges et son partenaire Frédéric Stenbrick, et la chorale officielle de Tel Aviv Jaffa, Mayan. Informations et réservations sur hadassah.fr, hadassah.fr. Les bénéfices seront reversés à la recherche médicale sur les cancers de l'enfant menés par le CHU Hadassah de Jérusalem.
Ce dimanche, Israël célébrera le 54e anniversaire de la réunification de Jérusalem, appelée la journée de Jérusalem ou en hébreu Yom Yerushalayim. Cette année, les autorités ont relevé le niveau d'alerte avec 3000 policiers mobilisés. L'État hébreu craint une répétition des violences pendant la marche annuelle des drapeaux. Explication avec Églantine Delalleux.
C'est en novembre 1947 que l'ONU vote le partage de la Palestine en deux États, un juif et un arabe, avec Jérusalem et sa région placée sous administration. Le plan est alors accepté par les dirigeants sionistes mais rejeté par les leaders arabes. Après la fin du mandat britannique sur la Palestine, le 14 mai 1948, l'État d'Israël est alors créé, mais au lendemain, les pays arabes attaquent l'État hébreu, conduisant ainsi à une première guerre israélo-arabe. Un an plus tard, des accords d'armistice en 1949 prévoit un partage de la ville de Jérusalem entre une partie orientale, Jérusalem-Est sous contrôle jordanien, et une partie occidentale sous contrôle israélien. Jérusalem est alors interdit aux juifs et les synagogues et cimetières sont détruits. Mais près de 20 ans plus tard, au cours de la guerre des Six Jours, les forces israéliennes reprennent Jérusalem. La journée de Jérusalem sera proclamée en mai 68 et la Knesset décidera de faire de ce jour une fête nationale afin de commémorer la libération de la vieille ville et de ses lieux saints, selon leurs mots. Chaque année, plusieurs milliers de jeunes Israéliens marchent jusqu'au mur des Lamentations avec des drapeaux étoilés. Mais cette année, les autorités israéliennes craignent une répétition des violences entourant cette marche qui traverse le quartier musulman de la vieille ville pour atteindre le mur occidental. Selon le site d'information Cannes, les forces de défense israéliennes se préparent même à l'éventualité de tirs de roquettes de la part du Hamas sur Israël, comme l'année dernière. Le groupe terroriste a aussi appelé hier les Palestiniens se rendre à la mosquée Al-Aqsa à l'aube de la journée de Jérusalem pour, je le cite, déjouer les plans de l'occupation.
Églantine Delalleux, pour en parler, nous sommes en ligne avec Olivier Rafovitch, colonel de réserve de l'armée israélienne et consultant sécurité pour la chaîne I24 News. Bonjour.
Boker Tov.
Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, les autorités israéliennes sont tiraillées entre maintenir un calme relatif dans une situation qui est tendue ces dernières semaines et affirmer la légitimité d'Israël sur Jérusalem. Qu'est-ce qui est le plus important finalement?
D'après vous?
Je vous pose la question. Moi, je suis là pour poser des questions.
Non, mais moi, je vous le pose aussi à vous, d'après vous. Cette question, elle est presque sans réponse. Je veux dire, c'est évident que Jérusalem est la capitale d'Israël, il faut arrêter de remettre en question à chaque fois la légitimité de Jérusalem et même de l'État d'Israël. Il faut arrêter à chaque fois de penser à ce qu'on peut faire, à ce qu'on peut pas faire. Maintenant, la marche des drapeaux est une marche d'un jour de fête qui, comme l'a dit votre journaliste, marque la réunification de Jérusalem, hein, la vieille ville de Jérusalem, le mur occidental, le Kotel, sont quand même la base fondamentale, la base spirituelle de la renaissance du peuple juif en terre d'Israël. Et maintenant que des groupes salafistes, extrémistes, qui sont le Hamas, le djihad islamique ou le Hezbollah, menacent Israël, ne va pas être la raison pour laquelle nous devons arrêter de vivre et devons arrêter d'être un État souverain. Alors nous allons prendre les mesures nécessaires, mais reculer ou changer le trajet serait un acte de faiblesse et surtout un acte qui marquerait, je dirais, la victoire de l'obscurantisme face à la lumière et face à Israël. Maintenant que les Européens, les Américains, les gens soient inquiets, on est aussi inquiets, mais on est chez nous. Et je dis franchement et sereinement, et il faut arrêter aussi à chaque fois de craindre telle ou telle chose. Nous savons, nous avons une armée, une police, les décisions ont été prises, ont été pesées, hein, elles ne sont pas prises comme ça par hasard, et puis il faut, à un moment donné, dire aux salafistes, aux extrémistes, stop. Parce que si on dit pas stop, ils continueront. Alors maintenant, c'est la marche des drapeaux. Demain, ça va être quoi? Ça va être, on n'aura pas le droit d'aller à Tel Aviv, on n'aura pas le droit de marcher à Yafo, on n'aura pas le droit de marcher à Haïfa, on n'aura pas le droit de vivre. Vous savez, Rudy, vous connaissez bien Israël, vous avez vécu là-bas de très nombreuses années, oui, je sais. Et donc, nous sommes un État qui fait face à des conflits, à des tensions permanentes. C'est dommage. J'espère qu'à un moment donné, les Arabes israéliens, les Palestiniens changeront d'optique par rapport à cette possibilité et ce rêve de pouvoir vivre les uns à côté des autres, les uns avec les autres. Mais en attendant, Israël ne peut pas se permettre de suivre le diktat des salafistes, des extrémistes. Ce serait absolument une catastrophe et d'abord une erreur.
Alors cette marche des drapeaux, c'est une tradition. Elle n'a pas posé autant de problèmes dans les années qui ont précédé. Est-ce que vous pensez qu'il y a une récupération politique, et je dirais même de part et d'autre, de cet événement qui est une tradition et, on le disait, qui est une fête?
Non, vous savez, encore une fois, il y a une montée de l'extrémisme chez les groupes radicaux. Vous savez, ce que disent le Hamas ou le djihad islamique ou le Hezbollah, c'est des incohérences, des aberrations. Vous savez, ils disent les Juifs vont marcher à Jérusalem pour attaquer, détruire la mosquée, enfin du n'importe quoi. On est dans l'aberration, on est dans la folie, on est dans du n'importe quoi. Et face à n'importe quoi, je crois qu'il faut rester à la fois serein, ferme, et surtout une espèce de logique. Cette marche des drapeaux, elle est magnifique quand on la regarde. Elle peut être tranquille. J'espère qu'elle sera tranquille. Je pense qu'elle sera tranquille malgré les menaces. Et hier, on a reçu certaines informations selon lesquelles le Hamas n'a pas envie d'une aggravation dans la bande de Gaza. Il a aussi ses intérêts et ses choses à gérer là-bas. Vous savez, à force de nous menacer, ils vont aussi à un moment donné recevoir peut-être le fruit de leur menace. Et là aussi, ils le pèsent. Il faut aussi penser à l'autre côté. Nous ne voulons pas ni menacer, ni attaquer, ni jeter quoi que ce soit sur qui que ce soit. Mais si effectivement il y a des volontés guerrières ou des volontés terroristes, Israël saura répondre.
Donc ce que vous dites, Olivier Rafovitch, c'est qu'il y a un décalage entre la rhétorique, on va dire, assez classique du Hamas et ce qui se passe en coulisses.
Tout à fait. Tout à fait. Et malheureusement, ce narratif est repris par la presse, est repris et multiplié par les médias, mais hier soir, s'est tenue une rencontre qui devait être, entre guillemets, un peu secrète des différents groupes salafistes dans la bande de Gaza. Vous savez, regardez, on est en train de vérifier ce que disent des groupes salafistes dans la bande de Gaza pour savoir ce qui va se passer. En tout cas, ils ont décidé de ne pas vouloir l'aggravation si cette marche de drapeau ne se fait pas au-delà de ce qu'ils pourraient craindre. Donc on est dans du n'importe quoi, mais si je vous résume ça à une phrase, ils n'ont pas du tout envie d'attaquer ou de menacer au-delà du narratif. Le Hezbollah s'est joint à la danse. Là aussi, le Hezbollah, c'est un peu nouveau. Là, il prend un très gros risque parce que le Hezbollah, comme vous le savez, a perdu les élections au Liban. Donc, il a envie peut-être de se redorer son blason face aux chiites et face à l'Iran. Mais tout cela réuni n'empêchera pas et n'empêche pas l'État d'Israël de faire ce qu'il doit faire et ce qu'il veut faire et tranquillement. Et maintenant, ceux qui veulent marcher avec des drapeaux, je parle avec des drapeaux, hein. C'est pas avec des bâtons, c'est pas avec des fusils, c'est avec des drapeaux. Depuis quand un drapeau menace la sécurité ou menace une mosquée ou menace... encore une fois, regardez, on est dans n'importe quoi et j'espère que les choses se passeront tranquillement. Je pense que se passeront tranquillement malgré les menaces qu'on entend d'ici et là, et qui sont reprises par la presse, qui souvent, malheureusement, ne comprend pas vraiment ce qui se passe chez nous à la maison.
Bien, c'est tout ce qu'on espère. Merci, Olivier Rafovitch, colonel de réserve de l'armée israélienne et consultant sécurité pour la chaîne I24 News. Merci à vous et bon week-end, bonne journée.
Et Shabbat Shalom, et j'espère que la fête sera une bonne fête pour nous tous.
Merci à vous. Vous écoutez la matinale info RCJ. Il est 8h23, bientôt 24. Place maintenant à la chronique série de Lise Barenboim.
Série Lise Barenboim. Le monde fonctionne d'une certaine manière, jusqu'au jour où une idée brillante vient tout révolutionner.
C'est l'histoire de la plus grande arnaque de la Silicon Valley. Prenez une jeune femme brillante qui a été major de sa promo à la prestigieuse université américaine de Stanford et qui s'est promis de révolutionner le monde de la médecine. Il s'agit d'Elizabeth Holmes, une américaine qui voulait compter dans l'histoire, quitte à fabriquer une énorme supercherie. L'histoire de cette arnaqueuse de génie, c'est celle racontée dans la série The Dropout, disponible sur la plateforme Disney+.
Les jeunes d'aujourd'hui sont dans l'action. Ils n'hésitent pas à remettre en question les anciennes méthodes. Ils veulent changer les choses tout de suite.
La mode est aux histoires vraies et The Dropout est tout à fait dans la tendance. Peut-être vous rappelez-vous du scandale Theranos, cette start-up qui avait un projet fou, exit les prises de sang douloureuses et si dorénavant, on pouvait faire ses analyses sanguines grâce à une simple goutte de sang prélevée sans aucune seringue. C'est avec cette idée ambitieuse que la jeune Elizabeth Holmes décide de quitter l'université à 19 ans pour créer son entreprise Theranos.
J'ai décidé d'arrêter mes études. Cette machine va changer le monde.
En plein boom des startups californiennes, la jeune femme réussit à convaincre de vieux lions du capitalisme américain d'investir dans son projet. Mais si l'idée est belle, la réalisation est un échec. Aucune des machines développées ne fonctionne. Mais rien ne peut entraver l'ambition d'Elizabeth qui rêve de devenir le nouveau Steve Jobs. Elle se met donc à falsifier les résultats de ses prototypes pour aller toujours plus loin.
Je comprends pas comment vous pouvez assurer le travail d'un ingénieur chimiste avec un diplôme de lycée.
Cette technologie ne sera prête que dans 10 ans, au moins.
Votre idée est impossible. Mais continuez à apprendre, continuez à essayer.
Et ça fonctionne. Pendant 15 ans, Elizabeth Holmes passe pour le petit génie de la Silicon Valley. Son personnage de jeune femme géniale et entreprenante séduit et elle devient la plus jeune milliardaire de la planète. Pourtant, ses machines distribuées dans des chaînes de supermarchés à travers les États-Unis utilisent en réalité des machines classiques Siemens. Une escroquerie qui dure jusqu'en 2015 quand un article du Wall Street Journal dénonce la chef d'entreprise.
Toute son image est basée sur du vent.
Il faut absolument l'arrêter.
On n'a pas vu un seul contrat. Je vous assure qu'elle vous ment.
En 2018, Holmes et d'autres dirigeants de l'entreprise sont inculpés pour fraude massive. La même année, la société est dissoute. En janvier 2022, Holmes est condamné pour fraude envers ses investisseurs, mais la peine n'a toujours pas été prononcée. Une histoire à peine croyable, racontée avec brio, notamment grâce à la performance hallucinante d'Amanda Seyfried, qui singe à la perfection Elizabeth Holmes. Vous verrez une jeune femme se transformer en monstre d'apparence et d'orgueil pour surnager dans un monde d'hommes. À découvrir sur Disney+.
Lise Barenboim, la chronique série, voilà, c'est presque la fin de la matinale info, mais d'abord, la météo de Sylvie. Ah, il n'y a pas de météo de Sylvie, alors on va dire au revoir, on va vous dire au revoir et vous donner le programme de la journée. Vous savez qu'RCJ continue sur les applis disponibles sur Apple et Android. Et puis à 11h, ça sera les rendez-vous du vendredi d'Essentiel, Torah with Anna avec les deux Anna, Anna Gourkikian et Anna Klarsfeld, l'émission culinaire d'Annabelle Chakmes. On se retrouvera à midi pour un best-of de Paul Amar, les meilleurs moments dans toute liberté. Puis un livre, un lecteur avec Florence Berthoud, ça sera à 13h. Voilà pour le programme de la journée que je vous souhaite excellente sur RCJ.